Richard Yates, romancier et nouvelliste américain, est né en 1926 et est mort en 1992. Écrivain peu prolique, il a écrit seulement 10 ouvrages, la plupart de ses œuvres se font connaître à titre posthume, notamment grâce au film « Les Noces rebelles » réalisé par Sam Mendes, à qui on doit aussi « American Beauty » et « Les Sentiers de la Perdition ». Film qui réunit les principaux acteurs du Titanic, Leonardo DiCaprio et Kate Winslet. L'écriture de Richard Yates est réaliste et assez sèche, car il a une façon de présenter les choses qui ne laisse pas prise à la mélancolie. Ainsi, on parle de la froideur de son écriture, car il a un sens de la fatalité mécanique. C'est aussi l'écrivain du désenchantement absolu dans les destins individuels de ses personnages. Un dernier moment de folie est un recueil de nouvelles publié à titre posthume. Vous y trouverez des histoires d'impossibilité de nouer des liens avec l'autre, des constats de solitude, des personnages dépourvus d'empathie et de considération de l'autre qui peuvent faire preuve de cynisme, voire de cruauté. Les personnages de Yates attendent leur bonheur qui passe toujours à côté. En voici des extraits. Des cloches dans le petit matin. Au début, ce ne furent que des formes grotesques, inconséquentes. Et puis, elles se transformèrent en gouttes d'acide et commencèrent à ronger la carapace de son sommeil de plomb, sans rêve. Enfin, il comprit qu'il s'agissait de mots, mais ils étaient vides de sens. « Kramer, disait Murphy, allez Kramer, réveille-toi, allez !» La bouche empâtée par le sommeil, il jura. Puis le vent le fouetta, bleu, glacé, tandis que Murphy écartait l'imperméable de son visage et de sa poitrine. « Eh bien, tu aimes dormir, toi, petit ?» Murphy le dévisageait un brin ironique. Kramer était réveillé à présent. Il humecta son palais de sa langue. « D'accord, ça y est, ça va. » Il se tortilla pour se redresser et s'adossa à la paroi de la tranchée, lentement, comme un vieil homme, ses jambes froides étalées, moulées dans son pantalon, rigidifiées par la boue. Il se frotta les yeux, releva son casque et se gratta la tête. Il avait le crâne douloureux sous la crasse. Tout était bleu et gris. Kramer chercha une cigarette, gêné d'avoir encore été si dur à réveiller. « C'est bon, tu peux dormir un peu, Murphy, je suis réveillé. » « Non, je vais veiller aussi. 6 heures. Lumière. » Kramer aurait voulu dire « Dans ce cas, je retourne dormir. » Au lieu de quoi, il grinça les dents et trembla de tout son corps. Dieu, qu'il fait froid. Ils étaient en Allemagne, dans la Ruhr. C'était le printemps. Il faisait assez chaud pour transpirer par les longs après-midi de marche, mais les nuits et les matins étaient toujours froids. Trop froids pour se contenter d'un imperméable dans une tranchée. Il fixait l'endroit où était supposé se trouver l'ennemi. Rien en vue. Juste une zone obscure, un champ labouré, et une zone plus claire, la brume. « Ils en ont envoyé 2 il y a une demi-heure, disait Murphy, à des lieues sur la gauche. Les nôtres leur en ont servi autant. Je ne comprends pas pourquoi ça s'est arrêté. Tu as dormi malgré le raffut. » Et puis il dit « Tu ne nettoies jamais ça ?» Il regardait le fusil de Kramer dans la pâle lueur du jour. « Je parie que cette saloperie est enrayée. » Kramer répondit qu'il le nettoierait et faillit ajouter « Laisse-moi un peu tranquille, bon sang. » Il était content de s'être retenu. Murphy lui aurait répondu un truc du genre « Je voulais juste aider, petit. » Et de toute façon, Murphy avait raison. « Autant faire un peu de café, » dit Murphy, fourrant ses mains sales dans ses poches. « On ne verra pas la fumée avec cette brume. » Kramer sortit une boîte de café en poudre et ils fourragèrent tous deux dans leurs sacs humides à la recherche de leurs tasses et de leurs cantines. Murphy creusa un trou entre ses bottes et posa une boîte de ration K dedans. Il alluma et éteint leurs tasses au-dessus de la flamme hésitante. Peu après, ils sirotaient leur café et fumaient une cigarette, chatouillée aux épaules et au cou par les premiers rayons jaunes du soleil. La grisaille s'était dissipée et le monde se parait de couleurs. Les arbres ressemblait à des silhouettes tracées au crayon sur un fond de brume lavande. Murphy espéra qu'il n'aurait pas à bouger tout de suite, et Kramer approuva. C'est alors qu'ils entendirent les cloches. Des cloches d'église d'une tonalité fine, féminine, vacillant à chaque bourrasque de vent. À 2 kilomètres dans leur dos, peut-être 3. Écoute, c'est joli, hein ? Murmura Murphy. Oui, joli, c'était bien le mot. Le visage rond et crasseux de Murphy était détendu à présent. Deux lignes noires, horizontales, barraient sa bouche, marquant l'emplacement où ses lèvres se rejoignaient lorsqu'il les pinçait. Entre ces lignes, la peau était rose et luisante, et ses lèvres intérieures, avait remarqué Kramer, étaient la seule partie d'un visage qui demeurait toujours propre, en dehors des yeux. Mon frère et moi faisions sonner les cloches chaque dimanche chez nous, dit Murphy. Gamin, je veux dire. On se faisait $1 chacun. Mince alors, ces saloperies ont exactement le même son. L'oreille tendue, ils échangèrent un sourire timide. Des cloches d'église dans le matin brumeux, c'était une des choses qu'on oubliait. Comme des tasses de porcelaine délicate, les mains d'une femme. Et quand elle se rappelait à votre souvenir, ce sourire timide montait à vos lèvres parce que vous ne saviez que faire d'autre. Cela doit venir de la ville qu'on a traversée hier, dit Kramer. C'est étrange qu'il fasse sonner les cloches là-bas. Oui, c'était étrange, convint Murphy. Et c'est alors que cela se produisit. Ses yeux s'agrandirent et la voix qui s'éleva, faible mais tendue, n'était pas du tout celle de Murphy. Tu crois que la guerre est finie ? Quelque chose frémit le long de la colonne vertébrale de Kramer. Bon sang, Murphy, bon sang, ça se pourrait bien. Que je sois damné si c'est pas ça, dit Murphy. Ils se regardèrent, bouche bée, se retenant de rire, de crier, de se lever, de courir. Nom de Dieu, fit Murphy. Kramer eut du mal à reconnaître sa voix aiguë et bafouillante. C'est peut-être pour cette raison que l'artillerie s'est arrêtée ? Cela pouvait-il être si simple ? Cela pouvait-il arriver de cette façon ? Un message allait-il arriver du quartier général ? Ou du régiment ? Franchetti, l'estafette du peloton, arriverait-il en trébuchant à travers ce champ pour leur communiquer la nouvelle ? Franchetti, ses bras potelés levés au ciel, hurlant « Hé les gars, revenez, c'est terminé les gars !» C'était fou, dingue, et pourquoi pas ? Bon sang, Murphy, tu penses que c'est possible ? Cherche des éclats de lumière, le soleil qui se reflète sur des armes. Rien. Il ne voyait rien et n'entendait rien, en dehors du tintement monotone au loin. Ce souvenir de chaque seconde. Ce souvenir du visage de Murphy, de la tranchée et des cantines dans la brume. Tout imprimé en soi, guettait les reflets. Ce souvenir de la date, avril 1945. Quel jour ? Qu'avait dit Meyers l'autre jour, avant-hier ? Il lui avait dit la date. Meyers avait dit « Qu'est-ce que vous en savez le vendredi saint ?» Kramer déglutit et coula un regard à son compagnon. « Attends une minute, on fait erreur. » Le sourire de Murphy s'affaissa. « Meyers, tu te souviens de ce qu'il a dit à propos du vendredi saint ?»« C'est le dimanche de Pâques aujourd'hui, Murph. » Murphy se laissa retomber contre le flanc de la tranchée. « Ah ouais, ouais, bien sûr, c'est vrai. » Kramer déglutit. « Ce sont sans doute les civils de Kraut qui vont à l'église. » Les lèvres de Murphy se joignirent pour former une ligne noire unique et il y eut un silence. Et puis, il enfonça sa cigarette dans la terre, jura, nom de Dieu, le dimanche de Pâques. I'm gonna raise a holler about a working all summer just to try to earn a dollar. Yeah, every time I call my baby, try to get a date, my boss says,
no dice, son, you gotta work late.
Sometimes I wonder what I'm gonna do, but there ain't no cure for the summertime blues. Well, my mom and papa told me, son, you gotta make some money. Now, if you wanna use a car to go a ride next Sunday. Oh, well, I didn't go to work. Told the boss I was sick.
Now you can't use a car cause you didn't work a leg.
Sometimes I wonder what I'm gonna do, but there ain't no cure for the summertime blues. I'm gonna take 2 weeks, gonna have a fun vacation. I'm gonna take my problem to the United Nations. Well, I called my congressman and he said, vote.
I'd like to help you, son, but you're too young to vote.
Sometimes I wonder what I'm gonna do, but there ain't no cure for the summertime blues.
Une chose bien à soi. Hélène remonte la manche bouffante sur son bras maigre, mais elle redescend aussitôt jusqu'à son coude. L'élastique est trop lâche. Tante Billy ne lui achète que des robes trop grandes pour qu'elle les porte plus longtemps. Quand Hélène remonte les deux manches pour qu'elle bouffe bien, il faut qu'elle garde les bras serrés le long du corps. Dès qu'elle se détend, les manches retombent et pendent mollement, juste au-dessus de ses coudes. Et bien sûr, la jupe aussi est trop longue. Bonne nuit, ma sœur. Bonne nuit, ma sœur. Les filles sortent de la classe et Hélène se retrouve en fin de file. La religieuse, pâle et plutôt sinistre dans sa robe noire, attend à la porte, une main blanche posée sur sa taille et l'autre par-dessus. Hélène compte dans sa tête, encore 4, encore 3, encore 2. Bonne nuit, ma sœur. Bonne nuit, Frances. C'est son tour. Bonne nuit, ma sœur. Bonne nuit, Hélène. Elle se presse dans le couloir froid à l'odeur de crayon et se faufile entre les groupes de fillettes. Elle dépasse toutes les filles de CM1. Et elle n'a pas d'amis. Il y en a qui ont peur d'elle, ce dont elle est assez fière, même si elle préférerait être aimée. Mais pour l'instant, elle ne pense qu'à sortir pour retrouver son frère. Dans la cour de récréation bétonnée, le soleil est aveuglant. Elle plisse les yeux et met ses mains en visière. Il y a un petit groupe de garçons au coin du bâtiment, elle aperçoit Roger parmi eux. Dès qu'il la remarque, son rire s'efface et y paraît gêné. Elle prend le chemin de la maison lentement pour qu'il puisse la rattraper. Par-dessus les vacarmes des cris, elle entend lancer « À plus tard, les gars. » Puis son pas traînant résonne sur la route derrière elle. Tu veux bien ralentir, Lynn ? Pourquoi faut-il toujours que tu te dépêches autant ? On risque de manquer le tramway. Il n'y en a pas d'autre après. On dit païant. Pourquoi ? Oh, tais-toi. Elle fouille dans la poche de sa robe et savoure la chaleur et la fermeté de la pièce de 50 cents qu'elle a trouvée dans la cour de récréation ce matin. Regarde ce que j'ai trouvé à la récréation. Waouh, mais tu l'as trouvé où ? Elle perçoit de l'avidité dans sa voix, elle décide d'en tirer le meilleur parti. « Tu veux vraiment le savoir ?»« Allez, dis-moi où tu l'as trouvé. » Elle arque les sourcils avec candeur et lui adresse un sourire énigmatique. Ils attendent à l'arrêt du tramway à présent et Roger se renfrogne soudain. « Tu sais ce que Witte, Clark et les autres ont dit ?» Elle sent une boule se former dans sa poitrine. Ils ont parlé d'elle. « Ils ont dit que tu as tellement de taches de rousseur qu'on ne voit pas la peau en dessous, que tu pourrais tout aussi bien être une noiraude. » Tu crois que ça me fait quelque chose ? Puis, après un silence, moi aussi j'ai entendu des choses. Mais elle voit son visage s'éclairer et prendre une expression assurée. Il sait qu'elle ment. Ne trouvant rien d'assez méchant, elle renonce. Je ne les répéterai pas parce qu'elles sont impolies. Tu n'as rien entendu du tout, je te connais. Une fois dans le tramway, ils fixent les bandes d'herbe jaunie qui défilent sur le bas-côté de la route, puis laissent leur regard glisser sur les maisons blanches, bien entretenues, et la verdure banale de cette banlieue de Floride. Et Hélène décide de lui avouer où elle a trouvé sa pièce d'un demi-dollar. « Je l'ai trouvée devant le grillage, tout au bout de la cour, sur le côté. » L'enthousiasme de la découverte revient. Elle voit qu'il est intéressé, même s'il répond « Qu'est-ce que ça peut me faire ?» Quand il remonte l'allée, il soulève des petits nuages de poussière avec ses pieds. « Qu'est-ce que tu vas t'acheter avec ?»« Je ne sais pas encore, peut-être rien. Je vais peut-être les mettre de côté. » Elle a failli oublier le plus important. « Ne le dis pas à tante Billy, Roger, d'accord, c'est promis ?»« Pourquoi ?» Elle ne sait pas vraiment pourquoi. Juste parce qu'elle veut garder une chose pour elle toute seule, une chose que tante Billy ne pourra pas lui prendre. « Parce que voilà tout. » « D'accord. » Et elle le dévisage, se demandant s'il comprend. Tante Billy est dans sa chambre à coucher à l'étage. Elle rédige sa lettre hebdomadaire à leur mère. C'est une femme proprette, avec une jolie petite bouche. Par les fenêtres voilées de moustiquaires, elle les regarde remonter l'allée et ajoute « Ce sont vraiment de bons petits. Je dois reconnaître que je suis tombée sous leur charme. » Elle range la feuille au monogramme noir dans sa boîte de correspondance. « Roger, arrête ça, tu vas abîmer tes chaussures » crie-t-elle à son neveu. Elle se lève et descend leur ouvrir. « Maintenant, dépêchez-vous d'aller vous changer. Si vous en avez envie, et lavez-vous bien les mains. Le goûter est sur la table. » Hélène se sent mieux dans son short kaki et son pull en maille. Ses vieux vêtements ont une bonne odeur de mer et de sable. Elle transfère les 50 cents de sa robe à son short. « Hélène, j'arrive !» Deux verres de lait, une assiette de sandwich au fromage frais et à la gelée les attendent sur la table émaillée de la cuisine. Roger a déjà commencé de manger. Il parle la bouche pleine et a une moustache de lait. Tante Billy est appuyée au réfrigérateur immaculé, les bras croisés. Elle fume une cigarette. « Nous verrons », répond-elle à Roger. Il lui parle encore des tortues. Il y a une boutique en bas de la rue où l'on peut s'acheter des petites tortues vivantes avec votre nom peint sur sa carapace. Comme elles sont interdites à l'école, elles sont devenues la marotte des garçons de sa classe. Il se défie d'en garder une en cours toute la journée sans se faire prendre. Hélène mord dans un sandwich et saisit son verre de lait. Elle aimerait avoir une tortue, elle aussi, décide-t-elle, mais pas seulement pour l'école. Elle jouerait avec pendant des heures, s'en occuperait et la laisserait se promener sur son bras avec son ventre tout mouillé. Il y aurait Hélène, écrit en jolies lettres, sur sa carapace, et une rose et un palmier aussi. Ce serait une chose vivante, bien à elle. Elle coûtait 60 cents. Mais alors, elle pourrait s'en acheter une dès demain si elle voulait, et tante Billy ne pourrait rien dire. Non, il valait mieux économiser l'argent. Pour s'acheter autre chose, ce serait plus amusant. Ou juste pour le garder comme un secret. Tiens-toi droite, Hélène. Roger, il ne se tient pas droit lui non plus. Dans ce cas, Roger aussi devrait se tenir droit. Mais c'est plus important pour toi, chérie. Dans quelques années, tu me seras très reconnaissant de t'avoir appris à te tenir droite. Une belle prestance, est-ce qu'une jolie fille a de plus précieux? Non. Hélène décide qu'elle gardera les 50 cents pour elle. Elle mâche son sandwich méthodiquement un long moment sans avaler, fixant le réfrigérateur. Tu as tellement de taches de rousseur qu'on ne voit pas la peau en dessous. Tu pourrais tout aussi bien être une noiraude. Elle se demande s'ils ont vraiment dit cela, mais peu importe. Lui l'a dit, en tout cas. Roger ne pense qu'à parler des tortues. Elles ne coûtent que 60 cents, tante Billy, et elles durent pour toujours, ou presque. J'ai dit que nous verrons, Roger, et je ne veux pas en discuter davantage maintenant. Et j'imagine qu'Hélène va en vouloir une, elle aussi, alors 2 × 60 cents, ça fait 1,20 $. Hélène a peur que Roger fasse allusion à son demi-dollar. Son visage trahit qu'il a songé à un autre angle d'attaque. Mais tante Billy, Lynn a déjà 50. Sa sœur le fait taire d'un regard noir qui dit « Tu m'as donné ta promesse. » « Cents » termine-t-il, mal à l'aise. Il détourne les yeux, rougissant. Hélène pince la bouche, furieuse. « Très bien, chérie, » répond tante Billy, distraite. Seulement, un long silence suit, et quand Hélène relève les yeux, elle est surprise par l'inquiétude, non par la curiosité, qui perce désormais dans le regard de sa tante. « Dis-moi, Hélène, de quoi s'agit-il? Qu'as-tu dit pour l'énerver à ce point, Roger? Tu parlais de 50 cents ?» Douce mais ferme. « Rien, » marmonne Roger, aggravant son cas. Les yeux se posent à nouveau sur Hélène. « De quels 50 cents s'agit-il, chérie? Tu as 50 cents ?» Inquisitrice, à présent, elle a un vilain pressentiment. Le mensonge est automatique. Non.
Bye.
Un égo convalescent. Bill se rallongea sur le canapé et reprit son magazine. Mais impossible de lire. Les derniers mots de sa femme lui restaient en travers de la gorge. « Continue à te reposer si c'est ce que tu es en train de faire. » Et qu'était-il censé faire d'autre au juste à peine 2 semaines après avoir quitté l'hôpital? Le médecin ne lui avait-il pas ordonné de se reposer? Rageur, il referma le magazine et l'envoya sur la table basse. Celui-ci s'étala sur le tapis et attira son attention sur les cendres de cigarettes, les siennes, également tombées à terre. Bon, peut-être était-elle vraiment surmenée, mais à quoi s'attendait-elle? Elle avait de la chance de ne pas se retrouver veuve après l'opération qu'il avait subie. Il se rendit à la cuisine pour boire un verre de lait, encore un ordre du médecin, boire beaucoup de lait, et se rappela les tasses à laver. Elle les avait alignées à côté de l'évier, 4 petites tasses quelconques, avec leurs soucoupes qu'elle avait rapportées à la maison la veille au soir. « Je n'ai pas pu résister, Bill, avait-elle avoué, et on avait besoin de tasses. Tu ne trouves pas cela trop extravagant, n'est-ce pas ?» Il sourit en frottant la brosse à vaisselle sur le savon. 4 tasses. C'était ça son idée de l'extravagance aujourd'hui, quand l'année dernière encore, elle les aurait fait mettre sur leur compte sans se poser de questions. Rien de tel qu'une longue maladie pour changer radicalement votre rapport à l'argent. Enfin, encore 1 mois et il serait sur pied. Il recommencerait à rapporter un bon gros chèque à la maison chaque fin de mois et elle pourrait commencer à se détendre. Il ferait toutes ces choses presque oubliées comme s'acheter des vêtements dont il n'avait pas besoin, aller au théâtre, donner des soirées et rester debout aussi tard qu'ils en auraient envie. Peut-être perdrait-elle cette affreuse manie de compter chaque piécette qu'elle avait prise. Peut-être. Soudain, il entendit un petit fracas aigu et regarda le petit tas de porcelaine brisé dans l'évier. C'était arrivé si vite qu'il resta stupéfait, 1 minute, les mains tremblantes, cherchant à comprendre ce qui s'était passé. Le porte-savon en porcelaine avait cédé sous le poids de la brosse à vaisselle. Il s'était descellé du mur avant de tomber sur la tasse et la soucoupe qu'il était en train de laver. Il ramassa les morceaux du porte-savon et inspecta le mur. Sa pensée suivante fut « Alors là, ce n'est absolument pas ma faute. » Ce truc stupide, pendait sur 2 petits crochets rouillés. La moindre pression était vouée à le faire tomber. Le plus remarquable était qu'il ne se soit pas cassé plus tôt. « Ce n'est absolument pas ma faute, » se répéta-t-il. Il jeta la porcelaine cassée et, avec la plus grande précaution, lava les autres tasses et les soucoupes, les essuya et les rangea. Ses mains tremblaient toujours quand il raccrocha le torchon et il retourna au salon, les genoux flageolants. Il s'assit et alluma une cigarette, tournant et retournant dans sa tête la petite phrase têtue. « Ce n'était pas ma faute, ce n'était pas ma faute », avec de moins en moins de conviction. Ce genre de choses lui arrivait presque quotidiennement depuis sa sortie de l'hôpital. Au début, Jean avait ri de sa maladresse. « Pauvre chérie, tu as perdu pied avec la réalité, tu ne crois pas ?» Mais dernièrement, ses réactions étaient plus variables, allant d'une gentillesse appliquée à un silence tendu, et il ne savait pas ce qu'il détestait le plus. Qu'allait-il bien pouvoir lui dire ? Pas question de lui présenter des plates excuses. Comment avouer ? « Désolée chérie, j'ai cassé une des tasses, et préservé une once de dignité ?» Mais seulement, que dire d'autre ? La sueur commençait à lui chatouiller le crâne et il se mit à pianoter sur la table de manière convulsive. Il écrasa sa cigarette, l'air décidé, se passa la main dans les cheveux, s'assit et s'obligea à se détendre. Il y avait de quoi devenir dingue à prendre trop à cœur ces choses insignifiantes. Il fallait qu'il se reprenne. Le porte-savon n'était pas bien fixé, cela aurait pu arriver à n'importe qui. Il n'avait aucune raison de s'excuser. Et aucune raison non plus de lui en parler dès son arrivée. Il valait bien mieux qu'elle le découvre seule. Il se contenterait de lui offrir une explication claire et posée quand elle la réclamerait. Il imagina la scène. Elle rentrerait, les bras chargés de provisions et Mike collé à elle, sans doute en train de sangloter. Il se lèverait du canapé pour lui prendre les sacs des mains, mais elle refuserait. « Non, ça va, Bill. Ne bouge pas. Mike, arrête ça tout de suite. » Il insisterait pour l'aider, mais elle répondrait. « Allons, Bill, ne sois pas bête, tu ne veux pas retomber malade. » Il se rassiérait et il la regarderait se diriger vers la cuisine, Mike sur les talons. Elle le découvrirait peut-être d'emblée, mais elle risquait d'être trop occupée pour se rendre compte de quoi que ce soit. Elle s'en apercevrait plus tard, quand elle aurait rangé les commissions, se serait occupée de Mike et aurait commencé à préparer le déjeuner. Alors, il y aurait un silence soudain et sa voix interrogative mais polie s'élèverait. « Bill ? Oui, mon chou. Qu'est-il arrivé au porte-savon ? Il était mal fixé. « Pardon ? C'est que je ne peux pas crier, dirait-il, d'une voix digne. Il faut que tu viennes ici, si tu veux m'entendre. » Et quand elle apparaîtrait avec son expression de patience mise à rude épreuve, il lui expliquerait posément. Le porte-savon était mal fixé, Jean. Ne l'as-tu jamais remarqué ? Je me demande comment tu as pu manquer de le remarquer. Il ne tenait qu'à deux petits crochets rouillés et... Tu veux dire que tu l'as cassé ? Non, je ne l'ai pas cassé. Je veux dire que ce n'est pas de ma faute. Tu veux savoir comment ça s'est vraiment passé, oui ou non ? Elle soupirerait, lèverait peut-être les yeux au ciel et puis elle s'assiérait et ferait mine de lui accorder toute son attention. C'était l'émission de La Langue Brune. Vous venez d'écouter Un dernier moment de folie de Richard Yates, Nouvelles oubliées, aux éditions Robert Laffont, paru en octobre 2014. Je vous dis à la semaine prochaine, non plutôt dans 15 jours, pardon, dans 15 jours avec Mélanie Leblanc, puisqu'elle intervient une fois par mois autour de la poésie. Et à bientôt. Au revoir.